au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour. Berlin, 9 novembre 1989, le jour où le mur est tombé, tel est le titre du hors-série du Figaro pour rappeler en un numéro exceptionnel, par les photos et par les articles, combien ce fut un tournant de l'histoire, la preuve que celle-ci n'est jamais écrite une fois pour toutes. Canal Académie, qui est partenaire du Figaro hors-série, a le plaisir de recevoir Isabelle Schmitt, responsable de l'iconographie. Bonjour Isabelle.
Bonjour Hélène.
Alors ce numéro hors-série du Figaro, il s'organise un peu comme tous les numéros hors-série. Il commence par un reportage photo qui est illustré par des textes des grands reporters et des grands journalistes de l'époque du Figaro. Autrement dit, de ceux qui étaient sur place au moment où le mur est tombé il y a 20 ans. Alors on y retrouve des grandes signatures, Gisbert, Georges Suffert, Jacques Jacquet-Francillon, Irina de Chicoff et même Alain Perfitte, qui n'était peut-être pas sur place, mais qui à l'époque occupait des fonctions de direction au Figaro.
Voilà, et qui a réagi avec toute sa verve et son talent. Je vais vous lire ce qu'il en disait, parce que effectivement le parti qu'on a pris pour cette rubrique image, c'était de faire un arrêt sur image comme à l'époque et donc avec des textes de l'époque. On a laissé l'analyse pour la suite du journal. Je vous lis donc ce qu'Alain Perfitte écrivait dans le Figaro du 11-12 novembre 1989. L'ouverture du mur de Berlin frappe de stupeur l'opinion mondiale, beaucoup plus qu'aucune des manifestations de la perestroïka. D'abord parce que personne ne s'y attendait. Il y a encore un mois, l'Allemagne de l'Est paraissait le bastion le mieux gardé du système soviétique. L'intraitable Honecker ne permettait pas de soulever le couvercle de la marmite. Ensuite, le mur de Berlin était le symbole le plus visible du rideau de fer. Nulle part ailleurs n'avait été tué autant de fugitifs essayant de passer d'est en ouest. Comment ne pas se réjouir de voir qu'un peuple sans coup férir a emporté toutes les résistances ? Comment ne pas être ému de cette révolution tranquille que beaucoup d'entre nous n'espéraient pas voir de leur vivant.
Alain Perfitte de l'Académie française, comme on le sait. Deuxième partie de ce Figaro hors-série, Isabelle, il est traditionnellement composé de ces 12 journées qui ont changé le monde. Donc là, 12 dates importantes qui vont donc de la coupure en deux de Berlin jusqu'à la réconciliation. Et on suit la chronologie, au moins les étapes les plus importantes.
Voilà, nous avons essayé de dégager 12 moments les plus importants entre les années 1961 et 1989. La première journée s'ouvre sur ce qu'on appelait les jours d'acier, c'est-à-dire la tension latente qu'on sent dans Berlin-Est, puisqu'avant l'élévation du mur et la mise en place de barbelés d'abord, il y avait juste une ligne de démarcation que des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est franchissaient tous les jours pour aller travailler à l'Ouest. Et le grand souci du gouvernement de l'époque, c'est que des dizaines de milliers d'entre eux restaient à l'ouest et fuyaient, en fait. Et donc, à partir de juin 61, la tension devient très perceptible parce que les fonctionnaires manquent aux postes clés. Il y a vraiment un exil très flagrant. Et du coup, un matin d'août, les gens se réveillent et découvrent des barbelés tout le long de la ligne de démarcation. Et c'est le début, c'est l'ancêtre du mur, puisque au fil des mois, le gouvernement et Honecker en première ligne fait renforcer ce mur et l'équipe de plus en plus de systèmes de défense.
Alors parmi ces dates, dans les 12 journées qui ont changé le monde, vous me permettrez, Isabelle Schmitt, d'en retenir deux, parce qu'elles concernent toutes les deux des membres associés des académies, donc de l'Institut de France. Celle du 19 août 1989, donc 19 août, on est donc avant la chute du mur, et c'est l'archiduc Otto de Habsbourg, qui est membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, qui aide les transfuges à passer la frontière. Alors, vous racontez cette histoire, comment ça s'est passé?
Oui, alors effectivement, on est là presque à la fin de l'aventure, on est en août, et Otto de Habsbourg, qui est également le président de l'Union pan-européenne internationale, en fait, lance une invitation très ouverte à tous les Européens de l'Est, notamment, puisque ce pique-nique a lieu en Hongrie, de participer à cette grande fête champêtre et
un
voilà,
pique-nique,
tout simplement au cœur de l'été. Mais en fait, officieusement, la rumeur a couru et a été donnée aux Allemands de l'Est que la frontière hongroise serait ouverte quelques heures, que les gardes frontières en fait fermeraient les yeux et que donc ceux qui voudraient s'enfuir le pourraient. Et au cours de ce pique-nique, il y a donc une véritable ruée. On a quelques photos où on voit les gens se précipiter justement entre les barbelés, entre les barrières qui sont ouvertes et au grand mécontentement du gouvernement est-allemand, bien sûr, qui perd plusieurs milliers de ses ressortissants au cours de cette journée champêtre et festive.
Alors l'autre journée, elle est un petit peu après la chute du mur, c'est celle du 11 novembre 89, c'est-à-dire deux jours après, lorsque Rostropovitch s'installe avec son violoncelle au pied du mur pour jouer Bach.
Oui, c'est un moment que beaucoup de chroniqueurs évoquent comme un instant de grâce incroyable dans ces journées qui elles-mêmes étaient incroyables, mais où l'on voit, et là on le voit en image, ce vieux monsieur qui s'est frayé un passage parmi la foule en liesse, qui ne faisait pas vraiment attention à lui, qui s'installe. Et là, on voit l'expression des visages émus, hilares, etc., des gens qui l'entendent jouer Bach au pied du mur. On le voit, il est au pied du mur côté ouest. On voit les tags, etc., derrière lui. Et c'est assez impressionnant de voir ce grand musicien, ce grand concertiste, dans un cadre aussi étonnant et aussi peu préparé au départ pour accueillir un moment de musique et d'art.
Rostropovitch, qui était membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, troisième partie de ce numéro hors-série. Alors, c'est plutôt une partie qui va offrir des articles de fond, de réflexion sur l'essoufflement du système soviétique, et notamment l'article d'Henri-Christian Giraud, qui s'intitule « Le communisme par chaos », et qui résume comment le système s'est effondré petit à petit. Mais il y a aussi dans cette partie les prises de position du président américain de l'époque, Ronald Reagan, de Gorbatchev, de Jaruzelski. Enfin, il y a des prise de position officielle qu'il est intéressant de se remémorer, justement.
Oui, c'est vrai que cet article explique assez remarquablement comment la chute du bloc soviétique est due à de multiples facteurs et conjugue à la fois la révolte des peuples qui gronde depuis des années. On ne l'a pas dit, mais on a une journée notamment sur Solidarnosc en Pologne et tout le mouvement de Waleza.
Oui, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, voilà, qui a contribué.
Qui a évidemment contribué. Il y a l'arrivée au trône de Saint-Pierre, du pape Jean-Paul II, polonais, dont Jaruzelski va dire le jour même de son élection, plus rien ne sera comme avant. Effectivement, on voit qu'il a eu un rôle très actif dans la chute du communisme. Il y a l'épuisement économique de l'URSS, tout simplement. Henri-Christian Giraud raconte les négociations de Gorbatchev avec les Américains et le fait qu'il soit quasiment obligé de mendier en fait, des subsides. Et donc, tout ça aide à comprendre un peu mieux comment cet empire qu'on croyait indestructible et pour lequel beaucoup d'intellectuels français s'étaient engagés, etc., s'est effondré comme un château de cartes.
Alors, il faut signaler aussi les articles de Jean-Louis Thiriot, qui est un historien germanophile, qui a d'ailleurs été invité à Canal Académie plusieurs fois, grand spécialiste donc des deux Allemagnes. Et le Figaro hors-série l'a envoyé sur place pour aller constater le réveil de Berlin et des deux Allemagnes aujourd'hui.
Oui, il nous semblait important de ne pas faire un numéro uniquement nostalgique, mais également de parler de ce qu'est Berlin aujourd'hui et de la façon dont Berlin a essayé de se reconstruire et de se réunifier. Et donc, nous avons demandé à Jean-Louis Thiriot, qui est effectivement un passionné de l'Allemagne et qui connaît à la fois les mentalités, l'histoire, etc., de se rendre sur place pour voir un peu comment la réunification s'est faite. Alors, d'un point de vue architectural, il décrit très bien tous les nouveaux quartiers qui sont nés, le plus flagrant étant à Potsdamer Platz. On a une photo avant-après. C'est assez impressionnant de voir qu'avant, c'est un lieu désert et avec un éclairage enfin, qui fait penser à tous les films policiers des grands temps, des hautes heures de la Stasi. Et puis que maintenant, c'est un centre très très vivant, non seulement commercial mais culturel, et où il se passe vraiment plein de choses. Il est allé également voir le Berlin Underground, donc si je puis dire, des squats, des artistes, des choses comme ça, son récit assez haut en couleur. Et il a parlé également de la dimension mémorielle, en fait, du fait que Berlin a, avec son passé, un rapport assez complexe. Il y a une grande place accordée à l'horreur nazie, mais finalement peu à l'horreur communiste. Et il raconte que un peu tous les obstacles qu'il a eus pour trouver le musée commémorant la Stasi, qui se trouve dans les locaux même de la Stasi, et les réactions un peu hostiles de certains passants qu'il croisait, à qui il demandait son chemin, et qui disaient « mais vous venez remuer tout ça, quel intérêt, pourquoi ?» Et c'est assez frappant de voir que finalement ce passé est nié dans sa partie négative par certains Allemands de l'Est qui ne se retrouvent pas dans la société d'aujourd'hui. Jean-Louis Thireuil raconte notamment sa rencontre avec un commentateur de bateau-mouche qui fait visiter Berlin et qui lui dit « mais avant, au moins, on avait du travail, avant, c'était l'ordre. » Ce qu'on appelle l'ostalgie, en fait. la nostalgie de l'Est. Mm. Et qui ne se retrouve pas du tout dans ce Berlin de l'Ouest, un peu déjanté et plus contemporain que dont nous avons l'image particulièrement.
Donc la réunification ne s'est pas faite non plus toute seule. Enfin, je veux dire, elle a aussi ses difficultés,
elle a aussi
ses problèmes. Et vous les évoquez dans ce numéro hors série, justement.
Voilà, nous l'évoquons avec un article de Martin Pelletier qu'on a intitulé « Au temps béni de la Stasi », évidemment sur un ton un petit peu ironique, mais qui dit bien que pour certains, je crois qu'il y a un pourcentage non négligeable, peut-être 10% des Allemands de l'Est, qui estiment qu'en fait, ils étaient plus heureux avant la réunification. Et donc, Martin Pelletier s'attaque un peu à cette idée-là et essaie de comprendre pourquoi. Et puis, on a un arrêt sur image assez long, sur deux films principaux consacrés à l'Allemagne de l'Est, que sont « La vie des autres » et « Goodbye Lénine », qui ne sont pas dans le même ton. Mais la vie des autres, notamment, explique comment un jeune réalisateur venu d'Allemagne de l'Ouest arrive à comprendre l'Allemagne de l'Est et à en montrer toute l'horreur de son système oppressif en dépeignant simplement la vie normale. Et ça, je crois que c'est très intéressant de lire cet article pour comprendre comment ce réalisateur a construit son film et comment son interrogation de départ, qui est « est-ce que l'art ou est-ce que la musique peut rejoindre le cœur de l'homme, quelles que soient ses convictions politiques ?» Comment cette idée de départ a donné forme à cet agent de la Stasi qu'on voit espionner un artiste et finalement basculer de son côté.
Et enfin, alors comme dans chaque numéro hors série, la partie finale, c'est complément d'enquête qui offre alors de multiples informations pratiques sur les expositions, les films, les livres, enfin toute l'activité culturelle qui permet justement de retrouver Berlin et les deux Allemagnes réveillées et retrouvées et réconciliées.
Voilà, c'est ça, il y a abondance de choses. On a également aussi voulu reconstituer un plan du mur de Berlin au cœur du numéro, qui est un dépliant en fait, qui est une infographie en fait, qui montre toute la structure du mur. Et je crois que c'est assez intéressant pour les amateurs.
C'est la première fois qu'on trouve un plan comme ça
Alors non, dans nos numéros historiques, notamment sur la guerre, sur le débarquement, sur la guerre de 14, nous avions réalisé des cartes qui montraient, alors là plus les batailles, dans la guerre de 14, il me semble qu'il y avait une reconstitution de tranchées également. Mais
c'est vrai qu'un bon plan vaut mieux que 1000 discours.
Exactement.
Hein. Donc, on comprend mieux.
Et là, c'est vrai que ce plan est assorti d'un article sur le mur mode d'emploi, un article d'Anne Sauty-Chalon qui explique comment ce mur et ce rideau de fer ont été conçus, comment ils ont été perfectionnés. Mais c'est vrai que du coup, on le voit en image, chiffre à l'appui, avec le nombre de fugitifs, de ceux qui ont réussi, ceux qui y sont restés, la structure, les alarmes secrètes. Donc voilà, je pense que ça plaira aux amateurs de cartes, également peut-être même de jeux vidéo, parce que c'est vrai que c'est assez... on y est, quoi. Quand on voit ces images, on s'imagine dans la situation de celui qui s'enfuit et qui bute contre à la fois les rangées de barrages anti-chars, les alarmes qui sont indétectables à l'ouïe, mais qui alertent tout de suite les vigiles qui sont dans les miradors et qui font que plusieurs personnes ont été tuées
immédiatement
oui, sans même savoir qu'elles étaient repérées. Enfin voilà, ça n'est pas très gai, mais c'est assez éloquent sur ce rideau de fer et ce mur de Berlin.
Donc un numéro vraiment historique qui permet de se remémorer si on a vécu cette époque ou de la découvrir si on ne l'a pas vécu. Et justement, c'est vraiment un numéro à recommander. Merci Isabelle Schmitt d'être venue jusqu'à notre studio pour
Merci
nous le présenter.
Merci de m'avoir invitée.
Et à bientôt.
À très bientôt.